Oui, on vient de voir Sarkozy, là, à Tunisie. Mais il a emmené combien de personnes avec lui? Ça coûte combien, ça, à l'État, encore? On voit plein de monde, là, puis sa femme, là. Enfin, c'est pas ça, se voit que c'est un mariage arrangé. C'est une escorte girl de luxe, ça se voit. Et les gens, ils gobent, là, comme les Anglais, ils avaient dit, dans la presse anglaise, ils avaient dit que c'était la nouvelle Lady Di, la nouvelle Kennedy, alors que c'est tout simplement une escorte girl de luxe. Sans marier au bout de 2 mois, tout le monde trouve ça normal, quoi. Un simple coup de fil, et là, la bonne femme. On voit, elle est toute niaise, vraiment, c'est tout de notre gueule. Puis je reviens aussi sur je regarde la 4, là, Jean-Michel Apathy, là. Mais qu'est-ce qu'il se prend pour qui, celui-là? Il nous fait la morale, il lui explique tout, là, comme s'il savait tout. Il parle de la petite Suédoise qui s'est fait tuer, cette pauvre fille qui avait choisi notre pays, là. C'est dégueulasse qui vient de lui arriver, c'est sûr. Mais il commence à dire dans les prisons, l'argent est mal réparti, pour le soigner les délinquants sexuels. C'est sûr qu'il faut soigner les délinquants sexuels, il faut leur interdire de récidiver, c'est sûr. Mais c'est quand on fout un mec en prison, il va vivre l'enfer là-bas, il va vivre l'enfer, c'est sûr. Et quand il va ressortir de là, il sera un fauve. C'est encore pire les prisons françaises. Il n'y a pas d'argent. Mais qu'est-ce qu'il... Il vient d'où ce Jean-Michel Apathy pour nous faire la morale tous les jours sur Canal+, là? C'est quoi ce mec encore?
Bonjour Daniel et bonjour à tous les auditeurs de France Inter. C'est Cyril, travailleur social en formation de l'IRTS de Lille. Et on arrive à Paris aujourd'hui, on a entamé depuis le 16 avril une marche de protestation contre le décret sur la gratification des stagiaires et sa circulaire d'application dans le travail social. C'est super difficile de mettre en place ça au niveau du travail social. On a entamé cette marche, on est parti, on a voulu rencontrer Xavier Bertrand. On a appris il y a 2 jours qu'il refusait de nous rencontrer alors qu'on a marché tout ça pour lui. On est néanmoins reçu à la DGAS. Alors j'appelle tous mes collègues, parce que je sais qu'ils sont nombreux à écouter ton émission, tous mes collègues éducateurs spécialisés, à quand même rejoindre les mouvements. Ça part des étudiants sur un petit symptôme de la gratification, mais c'est tout le travail social qui est concerné. C'est une réforme qui ne dit pas son nom. Et voilà, on franchit le panneau Paris, on est arrivé. Rassemblement à 13h à Denfert Rochereau pour une manifestation sur la gratification des stagiaires dans le travail social. Merci à vous, et puis que le travail social va survivre. Allez.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Et je viens d'entendre à nouveau l'énumération des précaires que fait Madame Parisot. Il faudrait lui rappeler à elle, et surtout à nous pour qu'on puisse se défendre, que cette précarité, c'est bien de la énumérer comme ça, de la voir de cette façon-là. Mais le problème, c'est que le travail, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas, c'est au-delà de ça, c'est un contrat entre une personne qui fournit un travail et un salaire. Et ce contrat est basé sur la jurisprudence, c'est-à-dire sur les droits. Et les droits, en une république bien constituée, ne peuvent pas être précaires. Les sentiments peuvent être précaires, la santé, vous pouvez faire toute l'énumération que vous voulez. Mais en ce qui concerne la loi, elle ne peut pas être précaire. À moins de vivre dans un régime susceptible de tomber dans un autre type d'ordre, qui lui ne sera pas précaire, et que c'est celui de la dictature de la finance. Merci, c'est Alexandro, je vous appelle de Tarbes.
Bien, je vous appelle pour vous signaler que le mercredi 21 mai 2008 à 15h, à Arles, à côté d'Arles, il y aura un monument dédié à la mémoire des Tziganes déportés pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est à la route de Salier, en direction des Saintes-Marie-de-Bamer. Si ça peut passer, ça serait peut-être pas mal pour un peu tous les manouches, tous ces gars qui n'ont pas droit à leur petite mémoire quand on refait les camps, quand on est prêt à les refaire. Je vous remercie. Allez, bonjour Daniel.
Bonjour, c'est Isabelle dans la Nièvre. Je viens d'entendre que Monsieur Darcos voulait prendre sa retraite. Eh bien, je pense qu'il devrait le faire parce que nous, on ne pourra plus la prendre bientôt. Donc, il a une bonne idée et il devra en profiter maintenant. Merci, au revoir.
Bonjour à toute l'équipe de la Basse-Essuie. Merci pour l'émission. petit message pour signaler aux AMG de la région de Clermont-Ferrand que l'Université populaire et citoyenne de Clermont, avec Parole de Bible et la ville de Beaumont, organise du 1er au 4 mai son deuxième festival de films engagés. Le thème de cette année, c'est mai 68, avant, pendant et après, bien sûr, mai 68. On va projeter une trentaine de films, dont L'an 01, Coup pour coup, Mourir à 30 ans, des films de Chris Marker, du groupe Medzekin, etc. et bien d'autres. Tout renseignement sur le site upc63.ouvaton.org ou au 04 73 31 14 05. À bientôt.
À bientôt, à bientôt, à bientôt. Merci pour tous ces messages, amis modestes et géniaux, auditeurs modestes et géniaux, à propos de cinéma. Eh bien, nous, ou plutôt moi-même, je serai au festival de La Salle, en Cévennes, demain, à l'occasion de ce festival de cinéma. Il y a du beau monde, Pierre Carl, Jean-Michel Carré, Ralit, Yael Sevan, il y aura Rémo Brac, enfin, etc. Et c'est un, il paraît que c'est très sympa, c'est la première fois que nous y allons. Et pourquoi nous y allons? Eh bien, pour présenter Chomsky, ça y est, le Chomsky en DVD va être projeté en intégralement pour la première fois. Amis souscripteurs de la région, on se retrouvera demain, donc à 16h, pour cette projection. Et ce festival dure 4 jours. Aujourd'hui, c'est la faute à 68, mais oui. Vous vous souvenez de ce discours, il y a pile poil un an, un jour de plus, le discours de notre présidente de la République à Bercy, un discours historique, autant qu'hystérique, tout à fait extraordinaire. Et bien sûr que c'est beaucoup par rapport à ce discours et son contenu, et l'histoire de son contenu, que beaucoup d'éditeurs et de médias se sont mobilisés cette année pour faire, pour éditer, pour faire un tas de choses sur la célébration du 40e anniversaire de mai 68. Une centaine de bouquins sont publiés ces jours-ci, ces temps-ci. Et ben, voilà, vous êtes cernés, gavés, enfouis sous les émissions, les plateaux, les soirées, les numéros spéciaux, les suppléments, etc., etc. Les parfums de 68, le thé vert de 68 qu'on trouve chez Fauchon, paraît-il, c'est extraordinaire. Ben malgré ça, malgré tout, on a voulu quand même parler de mai 68. On va commencer aujourd'hui avec François Cusset. Vous vous souvenez de François Cusset, qui était venu nous raconter les années 80, l'horreur des années 80. Là, il vient de sortir un bouquin chez Actes Sud qui s'intitule « Le contre-discours de mai ». Ce qu'Embaumeur et Fossoyeur de 68 ne disent pas à ses héritiers, d'une part, et d'autre part, Daniel Ben Saïd, auteur avec Alain Krivine, d'un 1968 fin et suite. 1968, c'est fini, mais quelle suite y a-t-il? Y en a-t-il encore? Quelle est la part de cendre et de braise de ces journées de mai, 40 ans après? C'est notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bassie. J'y suis au 01 56 40 37 37.
AMG du Pas-de-Calais, pas de réunion ce premier jeudi du mois à Monchy-Breton. Par contre, nous serons nombreux à Arras au 7e salon du livre d'expression populaire et de critique sociale organisé par Colère du Présent. Allez, au revoir.
Oui, allô, bonjour. C'est petite, pour vous donner une petite info, là, voilà, je travaille à Citroën, là, sur Chêne, et je vais vous dire que les ouvriers, ils sont de droite. Et la force du patronat, c'est les ouvriers, parce que déjà, ils n'écoutent pas France Inter, ils connaissent pas la Bastille, j'y suis, et s'ils écoutent la radio, ils écoutent Énergie, la télé, ils regardent TF1, et la culture ouvrière, elle n'existe plus, et tous les ouvriers, la plupart, quoi, ils sont avec le syndicat patronal, parce que ils adhèrent à leurs idées, quoi. C'est tout. Et voilà. Et enfin, voilà, c'est tout. Allez, au revoir.
Bonjour Daniel et l'équipe et tous les amateurs de la Bastille. Je suis du 19 au 23 mai à Paris. Va s'ouvrir un procès à 15 militaires chiliens qui ont participé à l'assassinat ou la disparition des 4 franco-chiliens. À partir du coup d'État de 11 septembre 1973, les militaires chiliens ont fait arrêter, torturer, assassiner, disparaître, envoyer en exil des milliers leurs compatriotes. Parmi eux, il y a 4 Chiliens qui étaient aussi français, qui sont morts. Il ne faut pas qu'on les oublie. C'est la première fois qu'un procès va s'organiser, va se mettre en place à l'étranger. Il y a des militaires chiliens qui ont été condamnés, mais le principal, Pinochet, a échappé à tous les procès. Celui-ci aurait dû être le procès à Pinochet. Malheureusement, il est mort avant. Peut-être que c'est intéressant qu'on revienne un jour sur cette histoire. Je vous embrasse. N'oublions jamais la mémoire et le futur. À bientôt, Pedro de Lyon.
Oui, juste pour signaler quelque chose que je viens d'entendre sur le journal de 19h de France Inter. Nicolas Sarkozy en Tunisie, alors je cite, hein, « Que s'unissent la main-d'œuvre du Sud et l'intelligence du Nord afin de créer un pôle gagnant ». Ça veut dire beaucoup de choses et je souhaiterais qu'on réagisse là-dessus. Voilà.
Monsieur Mervé, vous qui savez vous faire entendre, faites taire, s'il vous plaît, les sarcasmes sur la taille de Sarkozy. Ça blesse beaucoup de personnes qui aimeraient beaucoup être plus grandes, plus belles, moins grosses. Ça s'en prend à beaucoup de monde, beaucoup de personnes, ça touche beaucoup de monde. Cessez de vous en prendre à l'apparence, les auditeurs, les journalistes, tout le monde. Cessez de vous en prendre à la taille de Sarkozy, ça fait du mal à tout le monde. Merci, c'était Simone de Maussan.
Merci d'accueillir Laetitia et Johnny Hallyday. Et maintenant, nous allons écouter un petit témoignage de notre ami Jean-Marie Bigard.
Moi, je vais faire court, c'est la première fois que j'ai un meeting. Je suis un peu ému, malgré que j'ai déjà bourré Bercy. J'ai bourré le Stade de France, j'ai bourré plein de trucs encore la semaine dernière. Je disais que c'était la première fois que je venais à un meeting, parce que c'est la première fois qu'on a un candidat démocrate, courageux, très courageux, qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait, putain. Yes. Il faut pas louper cette occasion. Sarkozy, mesdames et messieurs.
Monsieur Jean-Marie Bigard, je vous demande d'accueillir un grand monsieur, monsieur Enrico Macias.
Tout le monde avec Nicolas Sarkozy qui représente, pour moi, une grande espérance, non seulement pour la France, mais pour le monde entier, et aussi pour tous les gens qui souffrent, pour toutes les minorités, et enfin, pour les pieds noirs, pour les harkis, pour les gens du voyage, pour tous les étrangers qui veulent vivre en France et qui veulent être français. Je vous aime, nous aimons tous Sarko.
Sarkozy, mesdames et messieurs.
Salut, c'est Daniel Mermelabès. Je suis avec Daniel Ben Saïd et François Cluzet. C'est la faute à 68.
Flight number 2, arriving.
Mais je veux aller plus loin. Parce que l'héritage de mai 68 a introduit le cynisme dans la société et dans la politique. Voyez comment le culte de l'argent roi, du profit à court terme, de la spéculation, comment les dérives du capitalisme financier ont été portées par les valeurs de mai 68, puisqu'il n'y a plus de règles, plus de normes, plus de morale, plus de respect, plus d'autorité, puisque tout se vaut, alors tout est permis. Voyez comment la contestation de tous les repères éthiques, de toutes les valeurs morales, a contribué à affaiblir la morale du capitalisme. Comment elle a préparé le terrain au capitalisme sans scrupules et sans éthique, des parachutes en or, des retraites chapeaux, des patrons voyous. Je le dis comme je le pense, je ne peux pas accepter de vivre dans une société où on explique à des salariés qu'il faut supprimer 10 000 emplois pour trouver de l'argent et dont le patron, qui est responsable de cette situation, part avec un chèque de 8 millions d'euros. Ce ne sont pas mes valeurs, ce n'est pas ma conception, ce n'est pas de la morale.
Eh oui, c'est de la faute à 68, la pédophilie c'est 68, la famine c'est de la faute à 68, le sida c'est de la faute à 68, les subprimes lui-même, tout c'est de la faute à 68, c'est de la faute à 68, c'est de la faute à 68. Alors un an après, eh bien voilà ce discours, on va pas trop épiloguer sur le côté ahurissant de ce discours, les erreurs historiques, la manipulation, la démagogie, etc. Un an après, quand on voit, quand on constate où en est le personnage qui parlait il y a un an si brillamment avec cet aéropage et cet entourage. Néanmoins, ce discours a suscité à l'époque un étonnement et ce qu'on pourrait appeler des réactions des témoins de 68, de ceux qui l'ont vécu, de ceux qui l'ont étudié, de ceux qui, pour qui c'est quand même un moment fort et pour qui ça ne peut pas être réduit à une seule chose, car on le sait bien, depuis au moins 40 ans, s'il y a une chose avec laquelle tout le monde est d'accord, tombe d'accord, c'est la complexité de ce qui s'est passé dans ces mois-là. Il n'y a pas eu un mai, mais des tas de mai. Il y a eu le mai étudiant, il y a eu le mai ouvrier, il y a eu les mai gauchistes, peut-on dire, Mao, trotskiste, il y a eu le mai libertaire, le mai sexuel, puisque oui, il y a eu le mai féministe, c'était le début du féminisme qui allait exploser quelques mois plus tard. Il y a eu mai à travers toute la France, on en parle jamais suffisamment. Il y a eu un mai rural, et puis il y a eu un mai écolo, c'était le début aussi de l'écologie. Vous voyez, il y a eu non pas 1000 mais, beaucoup de mai. Et puis il y a eu mai à travers le monde, de Tokyo à Mexico, de Berkeley à Varsovie, sans parler évidemment de Prague ou de Milan. Donc, ramener tout ça à une seule chose, c'est déjà en soi une erreur. Que reste-t-il 40 ans après de mai 68? Eh bien, il y a notre regard d'aujourd'hui. Regarder un événement, une époque comme celle-là, c'est réfléchir à aujourd'hui, parce que nous ne pouvons pas faire autrement que de regarder avec les lunettes d'aujourd'hui, avec les grilles d'aujourd'hui, avec les préoccupations d'aujourd'hui. Il y a un an, c'était évidemment un pur coup de marketing électoral, même si Serge Audier, qui publie un bouquin passionnant qui s'appelle « La pensée anti-68 », nous dit « Faites attention parce que la haine de 68, l'anti-68 a toute une histoire » et il le raconte dans ce bouquin. Pour l'instant, on est avec Daniel Ben Saïd et François Cusset, c'est « La faute à 68 ».
Voilà le Shuko wo tao bei qing ju Wo zong fa guo yao lai le Wo di ben yu yao cheng wo mao yu ji Wo yu dang deng wo yu mei yu fa se Wei chen da
Lorsque je dîne avec Thérèse Je prends des œufs durs mahonnaise Thérèse prend un gélati maota Le chat prend du maou pour les chats Le dimanche en automobile On va visiter la Sicile Ses plages et ses monuments Quand on rentre on est bien content Chaoshi, j'ai mon bréviaire de révolutionnaire Dans tous les bouges, moi je bois les quarts de rouge Le quart de rouge, c'est la boisson du quart de rouge Si j'aime bien la marche à pied, c'est à cause de la société Protectrice des animaux qui protège mon chamao Si la chromolithographie engendre la monotonie La montagne ça a du bon et c'est normal car c'est normal
Monsieur Maurice a été mordu par un guitariste pardu. Monsieur Maurice est moribond, guégué dans son le rigodon. Si je suis rapide et rusé.
Attention, attention François, il y a un pavé.
Tant qu'il y a d'un côté des manifestants, de l'autre côté des policiers, nous sommes du côté des manifestants et nous n'en sortons pas.
Les étudiants maintenant essayent de renverser une 404.
Non, je mettrai une bain bémol vers la fin. Je veux dire que c'est une fête assez triste pour moi, parce que 68, c'est pas seulement la belle explosion parisienne, c'est aussi l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie, c'est aussi le Biafra, par exemple.
Mai 68, mai 78, le rapprochement était inévitable, mais un peu facile, d'autant que les casseurs d'il y a 10 ans sont maintenant pour la plupart bien rangés et pères de famille. Ils ne quitteraient pas leurs pantoufles, même pour un anniversaire.
J'étais pas dans la rue pour tout un tas de raisons. Je suis resté effectivement dans ma chambre et je le dis, bon, sans complaisance et sans non plus fausse pudeur. Et ça pour un tas de raisons. Bon, d'abord parce que j'avais le sentiment, comme ça sur l'événement, que contrairement à ce qu'on nous disait, ce dont on nous rebattait les oreilles, qu'il ne se passait à peu près rien de nouveau en 68.
Alain Gesmard.
Bon, je crois que c'est le rire de Danny Cohn-Bendit en face des CRS. C'est la joie, une envie de vivre à en mourir.
Oui, le mot de la fin reviendra peut-être à notre confrère Le Matin, qui a fait une enquête chez les lycéens d'aujourd'hui. Mai 68, qu'est-ce que c'est? Demande le journal. Réponse, c'est déjà dans nos livres d'histoire.
C'est une génération, à un moment, qui a senti le besoin de se révolter parce que la société lui proposait un mode de vie qui ne lui plaisait pas. Et donc, elle a essayé d'inventer quelque chose de nouveau. Alors, dans cette invention sociale, eh ben, y a du bon, il y a du mauvais. Il y a du terrible et il y a du très beau.
Ah ben, y a une immense nostalgie, mais ça, c'est... J'imagine que toujours, les 20 ans, c'est une immense nostalgie. Mais je crois que c'est une nostalgie très positive. Mais
enfin, c'est des 20 ans très particuliers, quand même.
Ah oui, non, mais c'est une merveille. C'est vraiment, oui, c'est une merveille. C'est pas reproductible, d'ailleurs. Ça travaille tout seul. Ça peut pas se reproduire dans les mêmes formes.
On aurait bien voulu comploter. On complotait que dalle. On était totalement complotés par la situation. On était, nous, complotés. On n'était pas du tout comploteurs. On aurait bien voulu comploter, mais il n'y avait aucun complot, évidemment.
Les traces de 68, il n'y en a aucune. Pour la simple raison, 68, c'est fini.
C'est fini. Voilà, vous les avez reconnus, voilà presque 40 ans, que ce petit escouade, ce petit peloton de 68ards, c'est eux les vrais 68ards. Vous avez reconnu Bernard Kouchner, BHL, sans complaisance aucune, Roland Castro, Cohn-Bendit, etc. Tous sont depuis, bientôt 40 ans. C'est eux qui racontent cette histoire et qui masquent, évidemment, les multiples événements qui se sont produits à cette époque-là. L'effet de ce 40e anniversaire, c'est quand même de parler un petit peu autrement, de dire par exemple, que mai 68, c'est les plus grandes grèves de l'histoire française, les plus grandes grèves de l'histoire de l'Europe même. Or, on va du Quartier Latin, on va de la Sorbonne à l'Odéon, un petit coup rue Gay-Lussac, et puis on revient, et puis on se compète dans les souvenirs, en disant surtout aux générations qui viennent, circuler, il n'y a rien à voir, nous on s'est bien marrés, on a été formidables, on a décoincé cette société, on a modernisé les choses, mais surtout, heureusement, les idées que nous avions, les rêves que nous avions, ne se sont pas réalisés. Et il y a une sorte de monopolisation, d'usurpation qui a l'air de faire long feu au cours de ce 40e anniversaire. Il n'est pas temps, évidemment, de tirer les conclusions pour l'instant, puisqu'on est en pleine commémoration et espérons-le, en pleine bagarre. Avec nous, donc, Daniel Ben Saïd, qui signe ce livre avec Alain Krivine, 1968, fin et suite, ça dit bien ce que ça veut dire, dans une collection qui s'appelle La Brèche, et qui est un titre de l'époque. C'était 68, c'était l'une des images, c'était La Brèche, on a fait une brèche. Et puis, François Cusset, contre-discours de mai chez Actes Sud, ce que les embaumeurs, les fossoyeurs de 68 ne disent pas à ses héritiers.
pourquoi on a eu envie de vous inviter tous les deux, c'est que on s'est dit on va rien faire sur 68 parce que ça va être l'avalanche, ça va être la folie, on va être très vite gavé. Eh bien c'est vrai, on est déjà gavé, ça n'a pas commencé, on n'est toujours pas au mois de mai, et on est gavé, c'est l'avalanche, et on est, on n'a plus envie, quoi. Mais sauf que, quand même, on a à nouveau envie, non seulement à cause de Nicolas Sarkozy, mais à cause de tous ceux qui accomplissent le souhait de Nicolas Sarkozy. On pourrait presque dire Nicolas Sarkozy en a rêvé et Cohn-Bendit l'a fait. Cohn-Bendit et Glucksmann et Goupil et Rothman et Gessmar et Julie et Weber et Castro et Kouchner ont éliminé 68. Ils nous disent tous la même chose depuis des années, et là, ils sont tous en cœur pour nous dire « ça a été une époque formidable, on a eu une jeunesse absolument formidable, on a changé des choses dans la société, mais heureusement, nos idées politiques ne se sont pas réalisées, et c'est une chance pour tout le monde, parce que notre utopie était aussi dangereuse que folle. » Donc, exit mai 68.
Une forme un peu particulière ce matin pour cette interview, puisqu'on va se balader ensemble, Romain Goupil, dans ce quartier latin qui fut l'un des épicentres de mai 68.
On pensait, nous, qu'on allait changer le monde et sur un modèle qui était celui de la révolution de type bolchevique, oui, de 17. Et donc, c'est 40 ans après, c'est pas du tout ce qui s'est passé, et heureusement pour tout le monde.
Et c'est finalement, pour l'instant, au point où on en est de cette commémoration, le discours qui prévaut. Or, chacun de vous, dans ses ouvrages respectifs, vous allez à contre-courant de cet ordre des choses. Ben Saïd.
Disons que le discours de Sarkozy était surprenant. Moi, je l'ai vu en direct par le plus grand des hasards à la télé. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il prend à ce type-là ? 40 ans après, il est tombé sur la tête, en plus dans l'atmosphère de Bercy, avec un Glucksmann en extase, bon, un truc vraiment religieux. Et d'ailleurs, on retient de ce discours le passage sur 68 et la liquidation de 68, mais tout ce qui précède est de l'ordre du religieux. La communion, la prière, il y a un côté grande messe blanche dans ce meeting-là. Or, qui a valeur d'exorcisme, alors du coup, il a eu un effet bizarre, c'est que par un concours de circonstances qui n'est pas prévisible, il se trouve qu'il y a une génération aujourd'hui qui se trouve confrontée à la loi de réforme des universités, aux transformations scolaires, donc il y a une mobilisation pratiquement continue depuis l'automne des étudiants, maintenant des lycéens, des collégiens et des lycées professionnels, et que le discours de Sarkozy a fouetté une curiosité, c'est-à-dire, bon, mais s'il en dit tant de mal, c'est qu'il doit bien avoir quelque chose de bien là-dedans. Donc, il y a une demande de discuter, d'aller voir. Ça, c'est l'élément qui me paraît intéressant. C'est des gens qui sont dans le présent, qui ne sont pas dans la nostalgie, parce qu'ils sont en train de faire quelque chose. Donc, c'est autant pour se réapproprier une histoire que pour mesurer la distance et la différence qui les en sépare. Et effectivement, bon, je crois que c'est quelque chose qui a relancé les dés. Et nous voilà maintenant dans les 40e rugissants de 68.
Mais 1968 nous avait imposé le relativisme intellectuel et moral. Les héritiers de mai 68 avaient imposé l'idée que tout se valait, qu'il n'y avait donc désormais aucune différence entre le bien et le mal, aucune différence entre le vrai et le faux, entre le beau et le laid. Ils avaient cherché à faire croire que l'élève valait le maître, qu'il ne fallait pas mettre de notes pour ne pas traumatiser les mauvais élèves et que surtout, il ne fallait pas de classement. La victime comptait moins que le délinquant et ils avaient cherché à faire croire qu'il ne pouvait exister aucune hiérarchie des valeurs. D'ailleurs, il n'y avait plus de valeurs, plus de hiérarchie, ils avaient réussi, il n'y avait plus rien du tout et eux-mêmes, c'était pas grand-chose. Ils avaient proclamé les héritiers de 68. Que désormais tout était permis, que l'autorité c'était fini, que la politesse c'était fini, que le respect c'était fini, qu'il n'y avait plus rien de grand, plus rien de sacré, plus rien d'admirable, plus de règles, plus de normes, plus d'interdits, beau résultat en vérité. Souvenez-vous du slogan de mai 68 sur les murs de la Sorbonne, vivre sans contrainte et jouir sans entrave.
Monsieur André Glucksmann. On nous dit, il ne s'agit pas d'élection présidentielle, mais d'un référendum. Que le bulletin de Ségolène Royal, c'est un bulletin non, qu'il s'agit de faire barrage à un monstre autoritaire, raciste, etc., etc. J'ai choisi Nicolas Sarkozy parce qu'il est exactement l'inverse de cette caricature. J'ai choisi le candidat qui a fait hommage à la France plurielle, aux étrangers, aux républicains espagnols, aux arméniens, aux juifs, qui ont lutté, qui ont combattu pour que vive la France, et ma famille en était. C'est le candidat de l'ouverture de la société française, de l'ouverture du marché de l'emploi contre la très grande calamité qui s'appelle le chômage et qui dure en France depuis 30 ans. C'est ça ma solidarité avec la classe ouvrière.
Voilà, 40 ans après, la solidarité d'André Glucksmann avec la classe ouvrière. Pas de commentaire particulier à faire, vous les faites vous-même. Le commentaire qu'on peut quand même faire, c'est comment a-t-il été possible? Et là, je lis quelques lignes de Serge Audier dans La pensée anti-68. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est comment un discours imputant les dérives du capitalisme financier à mai 68 n'a pas suscité l'hilarité générale des citoyens ou leur consternation devant le peu de connaissances historiques du futur président et de son conseiller et auteur du fameux discours, Henri Guénaud. Alors, Ben Saïd et Cusset, Daniel Ben Saïd, 1968, fin et suite, évidemment c'est les suites qui nous intéressent, et Cusset, contre-discours de mai. Alors François Cusset, Daniel Ben Saïd, lui il était témoin et acteur de 68, s'il veut, il pourra faire son ancien combattant, quand tu
non,
pourras.
Non,
ça sera non, voilà. Par contre, François Cusset, c'est une histoire qui ne vous regarde pas. Vous êtes né l'année d'après, et vous appartenez à cette génération qui déteste assez ces vieux 68ards.
Ça dépend lesquels, évidemment. Hein. Les 68ards ne n'épuisent pas 68. Et puis, on est né après, mais on est né dans l'ombre. Et alors, essayer d'exister dans cette ombre portée, qui est une ombre à la fois monstrueuse, qui est une ombre très paradoxale, puisque c'est une ombre en retrait. C'est-à-dire que l'idée, c'est que la dernière révolution, la dernière lutte qui valait le coup, le dernier moment d'héroïsme, la dernière fois qu'on s'est éclaté dans l'histoire de l'humanité, c'était avant notre naissance. Enfin, c'est en gros le récit qui a bercé notre jeunesse à tous. Donc effectivement, on s'est positionné, on s'est affirmé, on s'est formé à partir de ça. Mais il s'agit surtout, d'abord, il s'agit de dire un peu par provocation que on est d'autant plus habilité à en parler qu'on n'y était pas, puisque justement le discours nostalgique, le récit d'anciens combattants, l'espèce de complaisance de c'était avant, on s'est bien marré, maintenant c'est fini. Si on veut couper avec cette rhétorique-là, bah justement, coupons avec le vécu et le biographique, et puis analysons la chose sans y avoir été. Et puis, effectivement, c'est revenu dans l'actualité. Alors, je sais pas trop quoi penser de l'effet du discours de Sarkozy. On pourrait dire c'est bien, parce que du coup, ça recrée du débat autour de 68, ça favorise l'intérêt, y compris des jeunes en cette commémoration. Pour 68.
Parce qu'on se dit autant de... une telle revanche, une telle fureur contre 68, pourquoi tant de haine? Enfin, faut-il que ça les hante?
Non, mais c'est le gros problème, c'est que ça crée surtout une fausse polarité. Moi, c'est ça qui me gêne. C'est que du coup, ça arrange tout le monde, cette affaire, parce que ça permet à une certaine gauche, qui est aussi anti-68arde que la droite sarkozienne, de se présenter en défenseur de la protestation, de la liberté d'esprit. Donc, ça crée une fausse polarité. On a vu donc pas mal de gens d'une gauche bien pensante réagir donc contre le discours de Sarkozy. Et du coup, le début de ce 40e anniversaire, c'est pour moi des faux débats. C'est-à-dire, c'est des débats entre des gens qui sont foncièrement d'accord. Moi, le point de vue de mon essai, c'est donc, il y a d'un côté des embaumeurs, ceux qui disent c'était super mais c'est fini, donc ils font un mausolée, quoi. Et puis les fossoyeurs, ceux qui disent c'est fini aussi mais c'était monstrueux, et d'ailleurs c'est la cause de tous nos maux. En gros, ils disent tous les deux c'est fini. Donc les débats qu'on a eus, moi je vais pas, je vais vous donner un exemple. Enfin, c'était des débats type Luc Ferry contre Daniel Cohn-Bendit. Il y a un exemple qui est quand même assez marrant qu'il faut donner, c'est on a interrogé Alain Gesmard et on lui a dit mais pourquoi il y a eu 68. On lui a demandé ça, je crois, sur votre antenne.
Alain Gesmard.
Les jeunes qui arrivaient à l'université avaient déjà trouvé en face d'eux une école qui n'était pas à la taille de taille pour les accueillir, des lycées qui n'étaient pas de taille pour les accueillir, ils trouvaient une université fermée. Et une université fermée est archaïque. On enseignait l'anglais à la Sorbonne, ici, en Sorbonne, comme une langue morte.
On ne savait pas enseigner l'anglais dans l'université française. Alors, la journaliste était un petit peu désarçonnée par sa réponse, pensant que 68, elle aussi était jeune, c'était quand même autre chose. Elle lui dit, ah bon, bizarre, mais il n'y avait pas aussi un 68 ouvrier. Bonne réaction de la part de la jeune journaliste. Et alors là, Gesmar, il continue, sans ciller, il dit, même problème dans l'usine et dans l'entreprise. Les ouvriers ne supportaient plus d'avoir des contremaîtres incompétents. Problème de formation technique, très mauvais ingénieurs, très mauvais contremaîtres.
Les jeunes ouvriers sont en face de contremaîtres qui n'ont plus aucune compétence technique. Parce que dans les usines, se sont introduites des machines-outils, se sont introduites des chaînes, il y a une mécanisation, une modernisation. Le contremaître qui, dans les années 50... était quelqu'un qui était un ancien ouvrier qui pouvait donner un coup de main à l'ouvrier qui avait une difficulté. Le contremaître est devenu simplement quelqu'un qui donne des ordres parce qu'il ne sait pas faire le travail que sait faire l'ouvrier. Donc, vous avez des révoltes qui miroitent assez facilement, qui se reconnaissent l'une dans l'autre. Et on ne peut pas comprendre que la brèche ouverte par les étudiants ait été empruntée par les ouvriers si on ne se rend pas compte qu'il y a un certain nombre de valeurs communes dans ce mouvement.
Donc, à entendre Alain Gesmar, le problème de 68, c'était... Enfin voilà, il le relie à la sauce d'aujourd'hui avec les problèmes de la technocratie européenne qui sont les siens, qui n'ont rien à voir avec 68. Dans la même journée, on entend, je crois, Luc Ferry interroger 68. Donc normalement, on est d'accord. Gesmar, 68ard, Luc Ferry, anti-68ard. On est d'accord. Et Luc Ferry, il dit, pareil, très sérieusement, on croirait une blague, mais il dit très sérieusement, 68, c'était quand même pas mal parce que ça, c'est la victoire du mariage d'amour sur le mariage de raison. Je vous jure qu'il dit ça. Donc voilà, en gros, 68 libération des mœurs, on garde le 68 culturel, on jette le 68 politique, et youpi, et tralala. Tout ça est faux, on est dans un délire complet depuis le début de l'année. Donc bon, que Gesmar relise ça technocratiquement à la limite, pourquoi pas, on va essayer de pas trop l'écouter. Mais tout ce délire sur 68 a été intégré dans les mœurs, dans la société française, c'est faux, c'est parce que ça a pas été intégré, comme disait Deleuze et Guattari dans un très bel article de 84, c'est justement parce qu'on n'arrive pas à assimiler 68, que c'est pas fini, qu'il faut continuer et que ça recommence demain matin. Si ça avait été assimilé, on le saurait.
Daniel Ben Saïd, est-ce qu'on peut englober mai 68 dans une définition ? Il ne faut pas oublier que le phénomène a été international. On en parle quand même un peu plus cette année. Hein. Oui, dans les commémorations précédentes, c'était un truc qui se limitait au quartier latin.
Non, mais non seulement on en parle un peu plus en France, parce qu'on relie un archipel d'événements internationaux, mais on en parle aussi internationalement beaucoup. C'est ça qui m'a étonné. Moi, ils s'organisent, alors pas forcément des activités militaires, mais y compris académique, mais dans au moins une vingtaine de pays, dont on a oublié qu'il s'y est passé aussi quelque chose. On sait la Tchéco, on sait le Mexique, mais le Brésil, le Canada, etc.
Le Pakistan.
Oui.
Mais quoi de commun, vous dites, relier des archipels ?
Je crois qu'il y a un moment historique. Alors, il y a un moment où quelque chose se noue, qui aurait pu ne pas se nouer, mais comment, à un moment donné, dans le rapprochement des dates, on voit qu'on est sur la crête d'une vague de lutte de libération nationale qui va de Cuba à l'Algérie, l'Indochine, un an après la révolution culturelle en Chine. On a une poussée en Europe de l'Est, surtout en Tchécoslovaquie, dans une moindre mesure en Pologne, mais qui est une poussée anti-bureaucratique, qui n'est pas du tout « rachetez-nous nos usines », mais qui a effectivement des aspects socialistes, démocratiques, etc. Et après les années de prospérité, dans un contexte plus ou moins d'abondance, une reprise de mobilisation en Europe occidentale, qui a commencé avec les grèves belges en 61 et les grèves des mineurs en France en 63. Bon, voilà, quelque chose qui donne le sentiment que ce monde pourrait changer à un moment donné. Voilà. Et bon, il se trouve que ça intervient c'est pas du tout dans la piété, mais quelques mois après l'assassinat du Che, dont on dit, mais enfin, son truc était délirant, vu a posteriori. Et au contraire, je pense qu'il y avait, si on relit ses textes et son expédition, il y a le sentiment d'une urgence, d'un moment propice où quelque chose peut arriver. Bon, et François Cusset en parlera mieux que moi. C'est un événement qui, du coup, garde son énigme, effectivement. Moi, j'ai mis en exergue la citation de Peggy, quand on se réconcilie sur une affaire, c'est qu'on n'y comprend plus rien. Alors, il disait ça à propos de l'affaire Dreyfus, voire de l'affaire Jésus. Mais ce qui fait la fécondité d'un événement, c'est qu'on ne peut pas se réconcilier, qu'on est encore en train de se bagarrer dessus, sur l'interprétation. Et on m'a demandé plusieurs fois, puisqu'il y a une actualité, mais enfin, qu'est-ce qui reste de ça ? Pourquoi ça marque encore, à mon avis ? C'est que ça a nourri en France une culture... je ne sais pas quel mot, de résistance, ça serait banal, de récalcitrance, enfin en tout cas, qui a rebondi et laissé des traces un petit peu, des traces aussi bien en 95 que dans les mouvements jeunes. C'est pas en droite ligne, hein, je ne vais pas me raconter un récit de l'héritage, etc. Mais c'est quelque chose qui a travaillé en profondeur et qui n'est pas tout à fait éteint, voilà.
Oui, parce qu'il est fréquent d'entendre sur 68, la France s'ennuie.
15 mars,
la France s'ennuie. C'est comme ça qu'on commence le récit. Ça veut dire personne n'a rien vu venir. C'est-à-dire que nous qui tenons le discours et qui avons pour rôle de vous dire ce qui se passe, nous, du haut de notre mirador, on n'a rien vu venir. Donc personne n'a rien vu venir et donc il n'y avait aucun signe avant-coureur. Mais on sait bien, si on a vécu ces époques-là, qu'il y a eu énormément de choses que dit Ben Saïd au niveau international, mais au niveau national aussi. On a vu des grèves. Il y a un film sur la grève à la Rodia Seta, par exemple, qu'on on a vu à ce moment-là, qui racontait ses rapports de force.
Mars 1967, la grande grève dans le vocabulaire rodien. Grève originale par sa durée, un mois entier, par sa forme, l'occupation d'usines oubliée depuis 1936, mais surtout par cette idée continuellement reprise que le déséquilibre lié aux conditions de travail se traduit par un déséquilibre de toute la vie, que nulle augmentation de salaire ne suffirait à compenser, et qu'il ne s'agit pas de négocier à la façon américaine son intégration dans une société dite du bien-être, dans une civilisation dite des loisirs, mais de remettre en question cette société, cette civilisation elle-même. Et le résultat tangible de cette grève, ce n'est pas 3-4% d'augmentation obtenue, c'est l'éducation d'une génération de jeunes ouvriers qui ont découvert dans l'identité de leurs conditions, l'identité de leur lutte.
C'était sur une décision de tous les travailleurs qui ont décidé de se mettre en grève pour arrêter le chômage. Dans ces conditions-là, tous les gars se sont retrouvés ensemble et ont vécu pour la première fois une expérience de collectivité pendant 8 heures par jour, au moins, dans le restaurant et dans les autres lieux de l'usine, ce qu'on n'avait jamais vécu. Et là, on s'est découvert mutuellement, quoi.
Voilà, ça c'est un extrait de « À bientôt, j'espère ». Un film tourné par Chris Marker et Mario Maret à la Rodia Seta de Besançon. C'était la première grève avec occupation d'usine depuis 1936. Et là, on est en 67. Mai 68 a une histoire. Mai 68 n'est pas survenu brusquement comme ça, avec rien, une France qui s'ennuyait et puis rien. Il y a eu beaucoup de choses avant qui expliquent en partie un événement qui, comme beaucoup d'événements, comme la plupart des événements, restent une énigme. La Rodia Seta.
Camarade,
depuis que je suis à la Rodia, il y a une chose qui m'a beaucoup impressionné, c'est les gars qui parlaient aux autres. Les gars qui montaient sur le tonneau pour parler. Ça m'a beaucoup impressionné parce que moi je sortais de la campagne. Alors c'est la première fois que je voyais quelqu'un parler à une foule. Alors ça m'a impressionné de voir que des gens étaient capables de tenir une foule. Hein, alors, les premiers qu'il y a eu, c'est peut-être Yo-Yo, c'est peut-être Castella ou autre, enfin n'importe quoi. Alors, aussitôt que j'ai pu avoir des contacts avec ces gens-là, disons que j'en ai profité. C'est simplement une raison. La première raison, c'est une raison personnelle. Une raison, disons que je savais qu'une chose, c'est qu'en fréquentant des gens comme ça, j'avais toutes les chances d'apprendre quelque chose. Hein. Parce que je voyais bien la différence qu'il y avait entre ces gens-là et les gens qui travaillaient dans mon atelier. Hein? Alors je savais qu'en fréquentant ces gens-là, j'étais sûr de gagner quelque chose.
T'es intéressé,
mais... Oui, sur ce plan-là, je pense que je suis intéressé. C'était la première raison, c'était une raison personnelle, une raison de m'enrichir personnellement. Alors là, il y a une chose qui m'a impressionné au mois de mars, c'est que quand j'ai vu que tout le monde était dehors, j'ai vu qu'on avait arrêté la boîte complètement, on avait empêché les patrons de rentrer, pour moi c'était une grande victoire. Je pensais que c'était impossible, moi, que nous, on soit capable d'arrêter une boîte complètement, comme elle était à ce moment-là. On a fait un peu tout, on a collé des affiches, on a marqué les inscriptions sur les murs, on a fait un peu tout le,
tout ce qu'il fallait, quoi. Ou ce qu'il ne fallait pas, on n'en sait rien.
Cusset, une définition de 68.
C'est 68, bon, on va pas faire un rappeur du pitch, on n'est pas à Hollywood, mais ouais, je pense qu'il y a trois éléments qui restent absolument actuels de 68. C'est, alors là, je vais faire un peu de la palissade, c'est sa dimension d'événement, précisément. C'est-à-dire, c'est la France s'ennuie, c'est impensable, ça peut pas arriver, on est dans un étau, un carcan, un machin, on est tous d'accord, on est dans le consensus médiatique, mou, passif, enfin, ça ressemble quand même beaucoup à aujourd'hui. Cette époque où c'est impensable, d'accord ? Pour moi, il y a vraiment deux... Un événement, ça a deux caractéristiques. Il y a deux adjectifs, je vais citer mes sources. D'abord, un événement, c'est insaisissable. C'était le mot du général de Gaulle pour 68. Il disait, je comprends pas, c'est insaisissable. C'est-à-dire que c'est irréductible à ses causes. Vous pouvez y aller, les historiens peuvent y aller, donner toutes les causes qui sont, dont, et Daniel Ben Saïd a absolument raison, la convergence internationale de la protestation, etc. Ça suffit pas à expliquer. Les causes n'expliquent pas. Et, deuxième mot d'un événement, c'est indépassable. Ça, c'est Deleuze et Guattari encore. C'est-à-dire que c'est irréductible à ses conséquences, cette fois. C'est-à-dire, quel que soit ce qui advient de mai 68, l'échec de mai qui devient individualiste, libéral, bourgeois, mai dans l'entreprise, mai, voilà, je sais pas, dans le droit sexuel ou dans je ne sais où, à la télé, ça c'est pas mai, ça c'est ses conséquences, c'est donc irréductible. Donc cette dimension d'événement, c'est-à-dire le surgissement d'une expérience commune irréductible, voilà, à ses explications, à ce qui peut la produire, ça c'est absolument actuel, par définition, puisque des événements, il y en aura jusqu'à ce que le monde disparaisse. La deuxième dimension, plus spécifiquement quand même de 68, c'est l'introduction d'un gros problème dans la politique et surtout dans la politique de gauche, dans la politique contestataire, que la gauche n'a toujours pas digéré depuis. On peut même dire que la gauche n'a rien détesté plus au XXe siècle que mai 68. C'est ce que moi j'appellerais la notion de minorité ou de lutte mineure. Il y a d'abord le fait que 68, c'est le lien, même l'indissociabilité, entre la lutte sociale classique, hein, qui va jusqu'au bout, qui est ouvriériste, qui veut le pouvoir, et l'existentiel, le subjectif, le sexuel, quel que soit le nom qu'on lui donne, ou même le culturel, si on veut. En gros, c'est le fait que, quand on occupe un lieu, c'est ça, en 68, on occupe une usine, on occupe une fac, eh ben, il y a à la fois du débat théorique ou technique sur le marxisme, la guérilla, comment résister à la police, etc. Et puis, il y a la question de qui fait la vaisselle ce soir. Voilà, la question collective, elle est d'abord là. Bon. Mai 68, je définirais mai 68 comme l'indissociabilité de la question de quel matérialisme dialectique et de la question de quelle équipe vaisselle ce soir.
La révolution n'est pas un dîner de gala. Elle ne se fait pas comme une œuvre littéraire, un dessin ou une broderie. Elle ne peut s'accomplir avec autant d'élégance, de tranquillité et de délicatesse et avec autant de douceur, d'amabilité, de courtoisie, de retenue et de générosité d'âme. La révolution, c'est un soulèvement, un acte de violence par lequel une classe en renverse une autre. Moi, je suis en classe de philo. Pour moi et mes camarades, c'est d'abord supprimer les examens, puisqu'on n'y apprend rien, puisqu'il est interdit de copier, et aussi parce que c'est une forme de racisme, puisqu'ils sont réservés à ceux qui travaillent à plein temps. Et parce qu'ils sont générateurs de névroses, d'angoisse et de frustrations sexuelles.
La Chinoise, 1967.
Les livres, non ? Faut pas les brûler. Après, on pourra même plus les critiquer.
Allez parler au lieu de faire la musique, merde ! Vous endormez, vous êtes des vrais chiens, vous voulez vous balader ici, c'est tout ce que vous faites. Alors on part 5 minutes et puis après on joue de la musique, mais il y a des gens ici qui viennent sans arrêt pour se balader. Dégarchie ! Voilà !
Quel matérialisme dialectique et de la question de quelle équipe vaisselle ce soir. Et peut-être juste un truc de plus, c'est-à-dire que du coup, qu'est-ce qu'on a fait depuis 68, depuis 40 ans ? Une seule chose, séparer ces aspects-là. Séparer le politique et le culturel. Dire oui, on garde l'existentiel, mais non, le politique, c'est pas bien, c'est la dictature du prolétariat, c'est le goulag, etc. Donc on s'est empêché de penser la convergence, ces deux choses, qui est une convergence très problématique, puisque les gauches ou les gauches de la gauche, en particulier en France aujourd'hui, sont pas du tout réconciliées sur le sujet. Vous le voyez bien, il y a une gauche plutôt sociale, que Daniel Ben Saïd incarne notamment, et puis une gauche un peu nouvelle, peut-être un peu plus jeune en termes démographiques, mais pas encore unifiée, qui est multiculturelle, identitaire, sexuelle, enfin qui s'intéresse à d'autres aspects. Voilà, c'est la convergence de ces deux gros morceaux, et voilà, cette convergence, elle est problématique. On est dedans depuis 40 ans.
Pour éclairer ce qu'on dit, il faut rappeler que Daniel Ben Saïd est philosophe, prof de philosophie, enseigne la philosophie, mais est aussi l'un des créateurs de la Ligue communiste révolutionnaire.
On était interdit en 68, et on s'est reconstitué clandestinement en Allemagne en 69.
Alors, je dis ça pour que vous réagissiez, cher Ben Saïd, sur
ce qu'il vient de dire.
Ce que vient de dire Cusset, c'est-à-dire la gauche a détesté 68.
Oui, je crois qu'il est, enfin la gauche il spécifie officielle, heureusement, mais oui, mais la façon dont il décrit le problème est absolument juste à mon avis. Je crois qu'il les cite le diagnostic de la critique existentielle ou artiste dont parle dans leur bouquin Boltanski et Capello et puis la critique sociale. Mais il y a un divorce qui s'est fait effectivement, notamment au fur et à mesure du reflux des années 70 et consommé sous le mitterrandisme. Alors, ça ne veut pas dire que la préoccupation n'existe pas, mais disons que l'ancrage social, je ne me justifie pas, j'explique, c'est ce qui nous a permis de survivre à ces années-là, notamment aux années 80. Alors maintenant, le problème reste entier, effectivement, de savoir quand, sous quelle forme, et c'est très compliqué, ça pourrait se rejoindre. Mais je voudrais rajouter peut-être, à propos de la politique des minorités, du devenir minoritaire, un des mots d'ordre, avant 68, la manifestation de Berlin de fin janvier 68, le mot d'ordre central, qui était d'ailleurs un mot d'ordre ironique par rapport à la campagne de la presse Springer, qui allait après provoquer, non pas commanditer, mais provoquer l'attentat contre Rudi Dutschke en avril, c'était « Wir sind eine kleine radikale Minderheit ». Nous sommes une petite minorité radicale. C'était le mot d'ordre central de la manif, qui était par ailleurs une manif de soutien au Vietnam. Comme quoi, l'assumer le devenir minoritaire était déjà dans l'air du temps.
Comme nous sommes tous des groupuscules.
Oui, ou nous sommes tous des groupuscules, effectivement. Alors, bon, ben, ce qu'il a dit, c'est vrai que j'ai dit que je ne parlerai pas d'histoire biographique ou d'anecdote, mais un événement, c'est ce qui aurait pu ne pas arriver. En même temps, il y a des conditions, il y a un air du temps. Et pour prendre Nanterre, puisque Nanterre, malheureusement, on en parle trop, mais c'est tout à fait significatif de ça. Daniel Mermet parlait, il y a eu des luttes ouvrières. Mais si on regarde ce qu'a été l'activité moléculaire à Nanterre, dont tout le monde se foutait, pendant une année, 67-68, il y a eu une grève étudiante contre la réforme à la rentrée. Il y a eu l'affaire dont on parle beaucoup, c'est vrai, de la mixité de la cité universitaire. Il y a eu des collectes à chaque fois qu'il y avait une grève ouvrière, notamment celle de Caen, qui a été une véritable émeute. Hein, et Redon, qui est pourtant pas une ville, c'est la ville de Madeleine. Si je... Mais donc, il y a eu ça. Il y a eu en permanence l'activité sur le Vietnam. En janvier, on était sur l'esplanade des Invalides contre l'arrestation de Modzelewski et Couronne en Pologne. À fin janvier, on a envoyé deux bus, notamment les ANAR, la JCR, etc., à Berlin pour la manif Vietnam. Et puis, il y avait périodiquement les incursions des commandos d'ordre nouveau sur le campus Bourbeux, etc. Mais c'est tous ces ingrédients-là qui fermentent. À un moment donné, bon, ben voilà, il y a ce qui aurait pu ne pas arriver, mais qui arrive, on ne sait pas comment, et qui est ce mystère de l'événement, effectivement.
La grève avec occupation d'usine est adoptée à l'unanimité moins d'une voix.
Mai 68, rendu à son énigme avec François Cusset et Daniel Ben Saïd. Merci à Jennifer Guillot de l'INA. On les retrouvera, nos deux penseurs, la semaine prochaine. Et cette fois, pour nous décrire comment on a vu 68 en 78, 88 et 98. Merci à tous deux. Le contre-discours de mai, c'est le bouquin de François Cusset qui sortira le 5 mai. La semaine prochaine chez Actes Sud, et 1968, fin et suite de Daniel Ben Saïd et Alain Krivine, c'est chez La Brèche, il paraîtra le 23 mai, donc on en parle bien avant, chez Nouvelle Édition Ligne. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission de la Basse, j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez la réécouter également sur labas.org, la-bas.org. À la technique aujourd'hui, Antoine Viossa et Rémi Quincel, Yann Chouquet et Koye Nguyen ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Perry et Christophe Imbert. Lui, c'est le répondeur auprès duquel il se tient dans l'attente de vos messages qui vont venir nombreux, 0156 40 37 37, et notamment des messages, témoignages, évidemment sur mai 68. On a déjà une très belle collection, mais continuez. Je me souviens de mai 68. Et puis, je rappelle que je serai demain à La Salle, en Cévennes, pour le festival de films de la SAP, pour faire des commentaires sur le Chomsky et compagnie, que nous présentons donc demain à 16h à La Salle. Réclame.